au décours d'une consultation qui se sera avérée nécessaire pour tel ou tel frère ou sœur, on va nous amener l'autre partie de la famille. Et souvent j'entends, bon, pour le petit dernier, on attendra quelques années avant que je vous l'amène, d'emblée. Et le petit dernier est dans la salle d'attente, avec la porte ouverte qui est déjà ouverte, et on dit déjà la chose, alors que la salle d'attente est ouverte. Et le petit qui fait ses Lego, qui est en train de dessiner, entend qu'il y a une prédiction. Prédiction, un jour ou l'autre, tu vas connaître M. Yffergrand, M. Martin, M. Dupont. Voilà. Et du coup, ça m'amène à penser que nous servons aujourd'hui, là, en 2003, depuis les années 2000, de prothèse familiale. Alors, c'est pas inutile, lorsqu'il y a un souci délicat pour lequel des parents vont appeler le psy parce qu'on en a déjà vu un, qu'on le connaît et qu'on sait très bien qu'il est réticent aux consultations sauvages. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On m'appelle quelquefois, vous connaissez Martin, vous vous souvenez de lui, il a maintenant tel âge, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu vous voir, son grand-père qu'il aimait beaucoup vient de décéder, on ne sait pas comment le lui annoncer. Question toute simple. J'aime bien ce genre c'est même pas une consultation, enfin c'est un avis, c'est un conseil au téléphone, et ça suffit largement. Et on va pas jeter la pierre à ses parents qui ne sauraient pas comment le dire à l'enfant, parce que souvent il y a des subtilités, il y a des choses que j'entends dans les séances avec les enfants que les parents ne connaissent pas, et en fin de compte on appelle le psy qui, ayant entendu des choses particulières, se demande comment le dire comme ci ou comme ça. Le psy saura, s'il se souvient du cas, présenter la chose en fonction de la sensibilité et de la subtilité de tel ou tel enfant. Ce genre de retour, d'aller-retour immédiat, j'aime bien ça, ça évite des consultations inutiles. Voilà. On va m'appeler parce que la maîtresse a trouvé que en ce moment, il est très agité. Voilà, c'est tout simple. On appelle. Depuis qu'Internet existe, et je pratique volontiers cette mise à distance de conseils avec les parents, qui seraient eux-mêmes câblés, je réponds aux questions. Ça évite des séances inutiles, ça évite des consultations qui ne servent à rien. Et j'en suis maintenant aussi, alors que je ne le faisais pas au départ, à demander quelquefois, quand je sens que la personne qui vient prendre un rendez-vous au téléphone a du temps, voilà, surtout quand ça m'est envoyé par un médecin qui a conseillé aux parents de venir me voir, je demande de quoi il s'agit en un mot. Et je le dis, en un mot, de quoi s'agit-il? Bon, ben, ça permet de repérer de quoi il s'agit. Et parfois, si on a le temps nous-mêmes, si on est disponible dans l'écoute de ce parent qui prend un rendez-vous, il arrive des fois qu'on entende une hésitation de la part du parent qui voudrait, pourquoi pas, venir seul la première fois. J'entends souvent, j'aimerais bien venir vous voir la première fois, vous exposer la situation. Auparavant, et lorsque j'étais débutant, j'étais très carré, très strict, et je rentrais dans un cadre bien plaqué qui me rassurait certainement. Et je disais, non, venez avec l'enfant, il s'agit de lui. Lorsque j'entendais de quoi il s'agit, je me mordais les doigts, non. Il s'agissait du parent qui avait des doutes, tout simplement. On n'est pas dans les grandes pathologies. Hein. Il est bien évident que dans toute la population d'enfants et d'adultes, je reçois des adultes aussi, que je vois, il est bien évident, heureusement d'ailleurs, vous comprendrez quand je dis heureusement, que les trois quarts de ma clientèle sont des enfants qui ont besoin d'aller voir un psychologue. J'ai donné tout à l'heure deux, trois exemples de pathologies ou de troubles qui méritent d'aller voir un psychologue ou d'avoir un soutien. Mais je parle de ce quart de patients qui me vient et qui peut-être, s'il y a des psychologues dans la salle, commence à affluer de plus en plus. Hein. Je veux dire, de 2, 3, 4 comme ça dans le mois, on commence à en avoir beaucoup plus. Et voilà, c'est un débat qu'on pourrait presque avoir autour de ces mentalités qui dérivent, cette toute puissance des parents de vouloir tout contrôler et l'idée qu'ils ne pourraient pas être capables de contenir les difficultés de leur enfant. Pourquoi? Pourquoi ils ne seraient pas capables, en fin de compte? Est-ce qu'ils ont essayé d'abord? Moi, j'aime bien les parents qui me disent « on a tout essayé ». On a demandé aux pédiatres, il faut quand même se référer aussi aux pédiatres qui savent quelquefois certaines choses et qui savent parler à l'enfant, parfois même en tête à tête, et qui font office de psy, et pourquoi pas? S'ils ont cette sensibilité, c'est très bien. On a demandé autour de nous, on nous a conseillé, On a vu la maîtresse qui connaît très bien notre enfant. On a demandé à la directrice. Il a même été vu une fois par le psychologue de l'école. Ça arrive, hein. Il y a des GAP, groupes d'aide pédagogique. Il y a des CMP, centres médico-psychologiques, centres médico-psychopédagogiques. Des enfants ont été vus quelquefois, et éventuellement même par un psychologue, une psychologue avant, hein. Et on ne sait pas comment faire. Alors voilà, j'aime bien ce genre de situation. Enfin, je dis j'aime bien. Je préférerais qu'on ait tout tenté avant et qu'on m'ait montré à quel point les parents ont tenté de contenir le symptôme. Et seulement à ce moment-là, on va voir le psychologue. Presque comme un ultime recours, pourquoi pas. Après tout, ça serait une façon très honorable de gratifier ses parents de possibilités de résoudre un conflit, de possibilité d'avoir les capacités à supporter. Or, il arrive très souvent que dans les familles, les deux parents travaillent. Il arrive souvent aussi que certaines familles soient décomposées, recomposées, avec interdiction pour le conjoint qui est venu en deuxième temps d'intervenir sur certaines questions délicates concernant l'enfant, donc la maman ou le père, hein, qui est le parent de cet enfant, se sent un petit peu isolé. Seul, parfois même chargé d'un conflit avec l'ex-conjoint. Bref, il peut arriver qu'on se sente terriblement seul. Ben, je trouve que nous, psy, avons pour mission aussi de regonfler, d'insuffler cette capacité qu'ont les parents à relancer un petit peu la machine éducative au sein de leur domicile. Je n'oublie pas qu'il y a des parents qui arrivent en phase. Je ne vais pas dire délabrement, ça va attrister le débat, mais qui sont même dépressifs, au chômage, en train de se séparer, n'en pouvant plus, et qui arrivent du coup avec un cœur énorme, prêt à déverser pas seulement des torrents de pleurs, mais leur histoire. Et je reviens, je conclue, je ne sais pas quelle heure est-il là. D'accord. Je voudrais laisser au moins 10 minutes pour un échange. On en arrive à recevoir parfois des parents qui n'attendaient que ça, c'est-à-dire une difficulté à supporter la vie. L'enfant le sent très bien, se met à exagérer les caprices, les conflits, fait des siennes à sa façon, et le nombre d'enfants qui tentent, bon an, mal an, parce qu'évidemment, ils ne savent pas que les psychologues existent. Tous ne savent pas que les psychologues existent. Ils ne savent pas comment interpeller le parent. Et ils savent très bien, par contre, ils ont senti que si on touche un peu trop à papa ou à maman qui est en train de craquer, ça va déborder. Et ce sentiment-là est très bien perçu par les enfants. Ils ont un sens inouï de la capacité des parents à contenir ou pas leurs émotions, leurs difficultés. Et on les ménage. Je veux dire, les enfants les ménagent. Ou justement, se met à les déranger. Mais pas eux directement. Alors, bien sûr, il peut y avoir des crises familiales entre parents et enfants. Ils vont aller déclarer ce malaise de papa ou de maman ailleurs. Voilà. Alors, il y a une convocation. Madame, monsieur, on aimerait bien vous voir. Il y a le petit Romain qui est intenable en ce moment. On n'en peut plus. On ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Les parents se regardent, quand ce n'est pas le parent tout seul, hein, qui est lui-même désemparé, ne sait pas quoi faire, et on propose d'aller voir un psychologue. Le psychologue reçoit, écoute, un mot de l'enfant peut déclencher tout de suite ce qui ne va pas chez le parent. Voilà. Et là, on a eu, du coup, je referme un petit peu la boucle en disant, c'est en fin de compte l'enfant qui va amener le parent à se soigner. Et il n'est pas rare du tout de voir dans ces 25%, enfin je donne un chiffre comme ça, hein, c'est intuitif, dans ces 25%, il n'est pas rare du tout de voir un parent venir avec son enfant, m'a montré son enfant, en fin de compte, la présenter comme un paravent pour venir tester la personne du psy qui est en face. Savoir un peu si on peut lui faire confiance. Et c'est pas plus mal, en fin de compte, on ne peut pas aller se livrer comme ça à n'importe qui. On a un nom, d'accord, c'est donné par un médecin, c'est donné par une amie, c'est donné par un ancien patient qui dit « je connais un tel qui est plutôt bien, tu devrais aller le voir », mais ce n'est pas suffisant. Et alors on met souvent l'enfant en paravent. L'enfant arrive, on teste du coup la capacité du psy à entendre nos propres souffrances d'adultes, et ensuite on se livrera ou pas. Il arrive quelquefois même que ce soit le parent qui demande à l'enfant d'aller dans la salle d'attente. C'est arrivé, je tolère tout à fait que ce soit possible. Il y a peut-être des secrets à dire d'abord sans que l'enfant ne l'entende. Bon, l'enfant s'éclipse, va jouer, va je ne sais quoi dans la salle d'attente, et le parent se met à parler. Et là, il y a quelque chose de l'ordre d'une écoute particulière qui va peut-être déboucher sur un autre entretien, toujours dans l'intimité, c'est-à-dire le patient et le psy. Et on est passé comme ça tout doucement du psychologue au psychanalyste que je suis. J'ai les deux casquettes et beaucoup de psychologues sont aussi psychanalystes. Et du coup, on a là une tournure de la situation qui fait qu'on va soutenir le parent d'abord, la fonction de parent. Plus tard, il viendra au cours des séances une autre question qui est, et moi dans tout ça, je parle pour le patient, c'est-à-dire l'individu lui-même. Avant d'être parent, il a été un individu. Et ça, c'est très important. Donc on a comme ça une sorte de bascule, je disais, dans les mentalités, dans l'histoire même du courant psychanalytique, où on amène l'enfant et c'est le parent qui se pose ou qui vient se déposer, quoi. Voilà, j'ai dû oublier des éléments que j'ai notés. Peut-être que dans l'échange, je pourrai apporter d'autres idées si vous posez des questions.